Encore ce matin, le Seigneur m'a complété les pensées qu'il m'a données ces derniers jours. Et il m'a donné des paroles d'exhortation pour nous tous qui voulons servir le Seigneur. Et dans l'esprit dans lequel le Seigneur veut qu'on le serve. Nous sommes au service du Seigneur ici, dans cette œuvre missionnaire compassion, dans laquelle il nous a engagés. Et nous avons des responsabilités, nous devons savoir dans quel esprit nous devons servir le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, il en est dans une œuvre comme dans une armée. Dans une armée, il y a des soldats qui partent au front pour combattre, ils sont devant. Et il y en a qui restent à l'arrière, comme le roi David en a aussi fait l'expérience. Et le roi David a bien dit, de la part du Seigneur, que ceux qui sont au front et ceux qui sont à l'arrière partageront les honneurs de la victoire de ceux qui sont au bagage. Voilà. Donc, il en est dans une œuvre comme celle que le Seigneur nous a confiée, compassion, comme dans une armée. Il y a ceux qui partent combattre au front et dans les tranchées, et il y a ceux qui sont restés auprès des bagages, du matériel et qui en prennent soin, mais qui sont néanmoins aussi des soldats. Ceux qui restent au bagage sont aussi des soldats engagés dans cette même armée. Chacun occupant fidèlement son poste, l'armée peut aller de l'avant. Et ceux qui sont au front peuvent compter sur ceux qui sont restés à l'arrière. Et il faut qu'il en soit ainsi au milieu de nous. C'est le Seigneur qui le souligne. Et voici les versets que le Seigneur m'a donnés. Parce que cette année, nous allons partir. Jean-François est déjà parti. Nous allons partir dans plusieurs pays. Et le Seigneur veut tous nous rendre solidaires de ce qui se passe. Parce que c'est ici son œuvre. Comme il y en a ailleurs, des œuvres, on n'est pas la seule. C'est pas ça l'histoire. Mais nous, on est ici. Dans l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Et vous aussi. À vous aussi. Et donc, le Seigneur nous dit à tous, car vous êtes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. 1 Corinthiens 3, 9. Et cet autre passage, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu, le chef de l'armée, qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. 1 Corinthiens 3, 7 à 8. Ensuite, car vous êtes mon ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que vous les pratiquiez. Éphésiens 2, 10. En outre encore, cherchez donc à porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, en étant fortifiés par ma puissance glorieuse. Nous pouvons compter sur la puissance glorieuse de Dieu. En sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Colossiens 1, 10. Et ces paroles qui accompagnent tout cela, aucun investissement, nous dit le Seigneur, ne peut se comparer à une vie vécue pour moi. Aucun investissement autre ne peut se comparer à une vie vécue pour moi. La rentabilité d'une vie qui m'est livrée dépasse, bien sûr, votre entendement. Mais votre appréciation de la vie éternelle, écoutez bien ça, moi ça a été comme une révélation, mais votre appréciation de la vie éternelle dépendra de ce que vous aurez fait de moi et de mon œuvre dans ce monde. Votre appréciation de la vie éternelle, c'est quelque chose. Ceux qui auront tout quitté pour me suivre seront grandement récompensés dans ma Jérusalem céleste. Quand le temps des récompenses devant moi, dit le Seigneur, viendra, soyez conscients que rien n'échappe à votre divin maître et chef de l'armée. Chacun aura sa récompense. Je les distribue avec cette équité parfaite qui est la mienne. Mes soldats qui aujourd'hui passent inaperçus partageront l'honneur avec ceux qui auront combattu au front. Je fais parfaitement la part des choses, dit le Seigneur, et il n'y a aucune injustice en moi. Travaillez donc à mon œuvre, dit le Seigneur, avec joie, fidélité et persévérance, réalisant le privilège que vous avez, qui vous est accordé, de servir votre Seigneur pour un gain incorruptible, en attendant de continuer à me servir dans mon ciel de gloire, avec tous les saints rachetés, tous les anges et les archanges qui me servent nuit et jour. Travaillez pour ma gloire et votre œuvre ne sera jamais vaine. Elle portera des fruits jusque dans la vie éternelle. Je compte sur vous, dit le Seigneur. Je compte sur vous, mes soldats. Le Seigneur nous appelle ses soldats pour marcher sans crainte, sans plainte, dignement, selon l'appel que j'ai adressé à chacun. Soyez fidèles en toutes circonstances, dans les bons et dans les mauvais jours. Voici, dit le Seigneur, je viens bientôt et ma rémunération est avec moi. Soyez fidèles jusqu'à la mort et je vous donnerai la couronne de vie, dit le Seigneur. Et puis là, j'ai quand même encore ceci à ajouter maintenant pour Guy et Muriel. Des exhortations pour toute personne en fait, mais pour vous particulièrement, qui s'engagent sur un nouveau chemin de service pour le Seigneur. Mes enfants, ne craignez pas lorsque une de mes nuées vient vous couvrir, lorsque je vous appelle à me servir d'une autre façon que jusqu'à ce jour. Ne craignez pas. Ne craignez pas de vous engager dans mon œuvre différemment, dans mon œuvre, celle du Seigneur, là où le Seigneur vous conduira. C'est pas forcément dans celle-ci, mais si c'est ici, ben c'est ici. À vous engager dans mon œuvre différemment de ce que vous avez l'habitude. Vous avez l'habitude de faire jusqu'ici. Je vous instruirai et vous montrerai le chemin à suivre, un pas à la fois. Mes nuées, dit le Seigneur, ne sont jamais là pour vous détruire. Si parfois elles semblent vous cacher ma face, elles ne vous cacheront cependant jamais mon amour ni ma puissance. Prenez courage. Si une de mes nuées vous effraie un peu, comme celle que mes disciples ont vue sur la montagne de la Transfiguration, et ils ont été un peu effrayés, comme mes disciples ont vu sur la montagne de la Transfiguration, rappelez-vous que mes nuées sont chargées de miséricorde. Et lorsque l'une d'entre elles est sur votre vie, c'est pour déverser sur vous mes bénédictions en abondance. Ma volonté pour vos vies est parfaite et y obéir n'est suivi d'aucun chagrin. Obéir à ma volonté est un appel que j'adresse à chacun de mes enfants et est toujours suivi d'innombrables sources de joie et de bénédictions. Seigneur, nous te prions particulièrement pour Guy et Muriel, pour la décision qu'ils veulent prendre devant toi, Seigneur. Merci pour ces paroles de réconfort, qu'en faisant ta volonté, mais la tienne, pas celle des hommes, ni la leur, ni personne, mais la tienne, ils ne se tromperont pas. Il n'y aura pas de chagrin, il n'y aura pas derrière, il n'y aura rien derrière qui puisse les effrayer. Si la nuée de Dieu comme qui a conduit le peuple d'Israël vous conduit ailleurs que là où vous êtes, eh bien, cette nuée, c'est celle du Seigneur. Elle ne doit pas vous effrayer. Vous devez rester dans la paix parfaite, celle que le Seigneur vous accordera dans toute décision que vous prendrez, quelle qu'elle soit. Merci Seigneur, que ta volonté soit faite pour eux. C'est nous te prions de leur donner le courage de te suivre là où tu les conduiras et de pourvoir à chacun de leurs besoins. Merci Seigneur, pour ta grâce là aussi, qui leur suffira pour eux et pour leurs enfants. Merci Seigneur, sois béni, sois loué, sois adoré Seigneur. Tu as toujours quelque chose à nous dire, à nous communiquer. Tu es bon. Merci de mettre en nous ce désir d'obéir à ta volonté qui est parfaite et sans ombre. Amen. Faut que je donne ça encore, c'est un peu la suite aussi, parce que la suite de ce que nous sommes les soldats, le Seigneur, j'ai beaucoup hésité parce que je me suis dit ça fait long pour ce matin, mais il faut que je donne ce que j'ai je redonne ce que j'ai dit dimanche dernier au sujet de la vision que le Seigneur m'a donnée la semaine dernière, qui se trouve sur le CD qu'on vous a remis de la fois dernière. Le Seigneur m'avait donné une vision qui m'est restée encore et qui fait partie de ce soldat que nous sommes, parce qu'il s'agit du bouclier. Un soldat a un bouclier pour se défendre contre les traits enflammés du malin. Et donc, cette vision c'est l'illustration du psaume 18, versets 2 et 3, qui dit « L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Donc, mon rocher et aussi mon bouclier. Et cette vision que j'ai eue, j'ai vu un grand rocher. Et ce rocher, c'était bien sûr Jésus. Et dans ce rocher, il y avait une grotte dans laquelle les chrétiens étaient réfugiés. Et tout autour de ce rocher, c'était la guerre, les combats, les flèches qui se dirigeaient de toutes directions vers les chrétiens, vers le rocher. Mais toutes ces flèches venaient se heurter contre le rocher et se briser contre le rocher. Parce que le rocher, c'est Jésus, bien sûr, qui protégeait ces chrétiens qui étaient dans le rocher, au creux du rocher. Et aucune des flèches ne pouvait les atteindre. C'est extraordinaire, cette vision. Et ce rocher, d'un seul coup, s'est comme transformé devant mes yeux. Et vous savez ce qu'il est devenu, ce rocher ? Un bouclier. Il s'est transformé en un bouclier. Parce qu'il est le Seigneur et le rocher, mais il est aussi le bouclier, à la fois, en fait. Il a pris la forme d'un bouclier. Et le Seigneur me disait, à quoi servirait un bouclier aux soldats, à la guerre, si ce dernier ne s'abritait pas derrière lui ? Il en est de même pour le chrétien. Il peut se tenir sur le rocher, mais sans aller se réfugier au creux du rocher, dans la grotte, pour être à l'abri des dards et flèches enflammées du malin, de ses accusations mensongères, il faut aller se blottir dans le creux de la main de notre Seigneur, et les traits enflammés ne nous atteindront pas. Le Seigneur est mon bouclier, mon rocher, mon bouclier, la force qui me sauve. Encore dit le psaume 18, 2 et 3, une haute retraite. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. C'est ceux qui se blottissent au creux de sa main. Le Seigneur, dans sa main puissante, nous élève au-dessus de nos adversaires. Il nous sauve de l'homme violent, verset 49. Alors le Seigneur disait, en ces temps difficiles de la fin, le diable cherchera à accuser les chrétiens de plus en plus violemment et de plus en plus souvent et de façon diverse. Alors, il nous faut nous réfugier derrière ce rocher bouclier, nous blottir dans le creux de la puissante main protectrice de notre Sauveur, notre grand libérateur qui nous a délivrés de la main de notre oppresseur une fois pour toutes à la croix. Alléluia. C'est lui qui nous justifie de toutes les accusations et calomnies que le diable nous envoie pour essayer de nous faire chanceler. Mais en lui, nos pieds ne chancelleront pas. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ta justice, ô Seigneur, est comme les montagnes de Dieu. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Job pouvait dire, selon une certaine version, « J'ai mon défenseur dans les cieux. » Devant les attaques de l'ennemi, nous avons un défenseur. Il nous faut être conscients de tout cela. Nous avons un avocat auprès du Père. 1 Jean 2, 1. Jésus-Christ le juste. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Psaume 118. Donc, confions-nous en lui et réfugions-nous dans le rocher bouclier qui sera un sur-abri, une haute forteresse. Notre Dieu est notre défenseur. Nous avons un défenseur dans les cieux. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes ou à l'ennemi. Quelles que soient les attaques, souvenons-nous de cela. Et nous restons les soldats. Nous, notre devoir, c'est de rester des soldats persévérants, travaillant pour le maître, chacun à son poste, fidèles et jusqu'au bout, dans les bons et dans les mauvais jours. Nous, ça, c'est notre rôle. Mais si les attaques deviennent violentes, nous savons aller nous réfugier là où il faut, en lui, dans le creux de sa main. Nous ne craindrons rien. Que son nom soit béni. Alléluia, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Tu es notre bouclier, notre forteresse, notre haute retraite. Rien ne saurait nous arrêter, nous décourager. Oh Seigneur, en toi nous avons un abri. Nous avons un avocat auprès du Père. Que demander de plus? Tu es notre intercesseur, le grand sacrificateur auprès de Dieu qui intercède jour et nuit pour nous. Pourrions-nous à craindre? Mais nous, Seigneur, puisses-tu nous trouver fidèles dans la tâche et dans l'œuvre que tu nous as confiée. Chacun à son poste, solidaires les uns des autres, nous soutenant par la prière, nous soutenant dans l'affection fraternelle et dans en nous encourageant dans l'obéissance à ta volonté. Les uns les autres, nous voulons continuer de nous encourager, nous soutenir, nous fortifier les uns les autres. Sois béni, Seigneur, sois adoré, loué, glorifié. Et Seigneur, merci de nous parler au travers du message maintenant de ta parole. Merci pour ta présence ce matin. Merci de nous avoir réconfortés, guéris. Sois loué, Seigneur. Amen.
Nous voulons te remercier. Pour ta parole qui est la vérité, sanctifie-nous par la vérité.
Amen, Seigneur.
Merci pour tout ce que tu as dit et fait, et merci pour ce que tu veux encore faire.
Maintenant, oui.
Et dire maintenant, Seigneur.
Amen.
Inspire par ton esprit.
Oh, Jésus. Amen.
Que ton nom soit glorifié et que notre foi, tous, soit fortifiée. Tout ce que tu nous demandes les uns et les autres.
Alléluia.
Merci Seigneur. Ouvre notre esprit pour que nous puissions comprendre les Écritures. Merci Seigneur.
Merci.
Amen. Le Seigneur m'a donné une parole sans que nous ne nous soyons consultés avec Dorothée.
C'est toujours comme ça. C'est incroyable ça.
De parler justement sur le soldat.
Ah ouais, je ne sais pas du tout ça. Ah
bah, oui, c'est noté ici.
C'est
les sept règles.
C'est incroyable ça. Alléluia.
Les sept règles du soldat de Jésus-Christ.
C'est beau ça. C'est très beau.
Dans la semaine, j'avais pensé à autre chose, mais après, ça change.
Voyez-vous. Seigneur, t'as bousculé aussi.
Et là, alléluia, j'ai noté sept règles. Où est-ce qu'on va les trouver? Dans 2 Timothée.
Merci, Seigneur.
2 Timothée 2, un passage qui est bien connu. On peut lire à partir du verset premier. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Et c'est les versets 3 et 4 que nous allons méditer ensemble. « Souffre avec moi comme un, qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles ? Comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alors, dans ces deux versets, il y a les sept règles du soldat de Jésus. Mais on va lire quand même la suite, là. Et là, ensuite, il parle de l'athlète. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu, suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis. Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Ne l'oublions pas, Paul est en prison lorsqu'il écrit cela. Il est en prison. La deuxième épître à Timothée, c'est la dernière lettre qu'il a écrite. Il est en prison. C'est en somme ses dernières exhortations qu'il adresse à son disciple. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Et toujours dans cette même pensée, on va relire au chapitre 1er, quand il dit, verset 13, « Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Et là, il ouvre son cœur. « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie montent abandonné, entre autres, Phygèle et Hermogène, Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Il y a tout un contexte ici qu'il est important de savoir. Et nous allons y revenir dans quelques instants. Mais dans ces deux versets, vous pouvez souligner sept mots qui vont nous donner les sept règles. La première pensée qui est importante, souffre avec moi. Vous pouvez souligner là, parce que dans le texte grec, c'est un seul mot. Et on va trouver là la règle, la première règle du soldat.
C'est 2 Timothée 2.
2 Timothée 2, 2 et verset 3. Alors quand il est dit « souffre avec moi », dans le grec, c'est un seul mot. Et nous allons voir ce que ça veut dire, parce qu'il y a là la règle que tout soldat doit savoir avant d'aller au combat. Ensuite, comme un bon soldat. Alors, il faut déjà souligner « bon », parce que le mot « bon » ici ne veut pas dire grand-chose. Un bon soldat, c'est quoi ? Mot grec, « kalos ». Je n'ai pas fait le grec, attention, hein, ne pensez pas que je suis un érudit en grec, parce que je prononce un peu à la grecque. Non, non. Kalos, on va y revenir tout à l'heure, qui est utilisé plus de 100 fois dans le Nouveau Testament, est un terme extrêmement riche. Bon, c'est la deuxième règle, et je ferai ma petite phrase qui va avec. Soldat, c'est aussi une règle. Le chrétien doit être un soldat. On va y revenir. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il faut souligner. On va y revenir là-dessus. Pourquoi il est dit de Jésus-Christ ? Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse. Souligner s'embarrasse. On en a combien déjà ? 1, 2, 3, 4, 5. Qui s'embarrasse. C'est important là. Parce que beaucoup comprennent un peu mal ce texte. Ils pensent qu'un soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, c'est-à-dire qu'il faut que cette personne soit absolument au service de Dieu pour penser qu'il sert Dieu.
C'est ça.
Mais ce n'est pas du tout ça, là.
Soldat.
Ce n'est pas du tout là, la pensée. On va y revenir, je vous donnerai quelques petites pensées là-dessus. Ouais. Ensuite, s'il veut plaire. Mmh. Ah, là, il faut souligner, là. Mmh. Plaire. Là, il y a tout un message, là, derrière.
Oui.
Une autre règle, c'est la sixième règle. Et ensuite, à celui qui l'a enrôlé. Ah, là, attention, il y a un enrôlement, là. Un engagement. Mmh. C'est un mot aussi très important. Mmh. Il y a là, donc, là, les sept règles. Alors, la première règle, nous la trouvons donc dans cette expression, « souffre avec moi ». Et nous allons, si vous pouvez noter, alors cette première règle, nous allons la découvrir dans l'expression « souffre avec moi ». Alors, la première règle est celle-ci, c'est un appel à rester fidèle coûte que coûte. Un appel à rester fidèle coûte que coûte. Pourquoi je dis cela ? Parce que c'est dans l'expression « souffre avec moi » que nous trouvons cette pensée. Donc, pourquoi l'apôtre disait cela ? Et le mot grec pour « souffre avec moi » a trois pensées. Il y a trois pensées. Le mot se détache en trois. Il y a la première partie qui est « son », S-U-N, qui est en rapport avec le partenariat. Il y a une pensée de partenaire. Donc, tu n'es pas seul.
Mm-hmm. Amen.
Tu n'es pas seul. Et la deuxième pensée, c'est le mot « kakos ». Il y a un mot « kakos ». Et là, dans ce mot-là, « son kakos patos », c'est tout un mot qui va ensemble. Dans la deuxième pensée, c'est un mot qui veut dire, en somme, c'est comme si Paul lui disait « tu as raison, c'est très dur, et les choses semblent s'envenimer, c'est une situation tragique ». Donc, dans ce mot-là, il y a la pensée d'une situation tragique, angoissante. Et le troisième mot, c'est « pathos ». Paul l'a utilisé pour lui dire que dans ce combat-là, il doit s'armer. Et il doit mener le combat jusqu'au bout.
Amen. Amen.
Parce que c'est un combat angoissant.
Uh-huh.
C'est un combat terrible. Et pourquoi il disait cela ? Lui-même était en prison.
Eh oui.
Il était en prison. Et non seulement il était en prison, lui, mais il vivait, Paul et tous les autres, dans une nation qui était prisonnière, une nation qui était finalement entre les mains de l'ennemi. Ils étaient dominés par une nation de soldats, Rome. Vous voyez ? Alors, et en ce temps-là, On a parlé de... Qu'est-ce qu'on a dit? De Figel Hermogène. Paul voulait lui dire. Et il le savait, Timothée. Il y avait des désertions qui commençaient. À cause des grandes souffrances, à cause de l'angoisse, à cause des persécutions, à cause des calomnies. Beaucoup de chrétiens, en ce temps-là, commençaient à déserter. En plus, Paul est en prison. Alors, il y avait de quoi alerter, paniquer Timothée. Vous dire, mais il ne reste plus personne. C'est la persécution à outrance. Et il y en a qui commençaient à flancher. Figel et Hermogène ont commencé à flancher. Et il y en a d'autres encore, on ne va pas tout lire dans l'épître encore. Alexandre aussi, Philémon, et Alexandre. Enfin, il y en a plusieurs. Donc. Et on voit les uns après les autres commencer à abandonner, à déserter. La situation était tragique. Il y avait de grandes persécutions. Et pour tenir ferme dans ces temps-là, il faut la mentalité d'un soldat. Et Paul était tous les jours, avait toujours, tous les jours devant ses yeux, des soldats. Il y avait des soldats romains qui le gardaient. Et ensuite, dans le pays, il n'y avait que des soldats. Et il a pu observer ces soldats romains. La discipline, l'ordre, l'obéissance, l'esprit d'équipe. Ils étaient là. Et Paul, c'est comme s'il se disait, si tous mes chrétiens étaient comme ça, si tous les chrétiens avaient cette mentalité de soldat. Et il s'est dit qu'il n'y a que ceux qui ont cette mentalité de soldat qui peuvent tenir dans ces temps de troubles, d'angoisse et de persécution qu'ils vivaient à ce moment-là. Et nous vivons à nouveau ces temps-là, mes amis.
C'est vrai, tout à fait.
Et la souffrance, il y a la souffrance physique, bien sûr, mais dans ce mot-là, c'est surtout la souffrance mentale, l'angoisse, la crainte, la solitude. Et Paul sentait que Timothée flanchait un petit peu. Il lui a dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de
sagesse.
N'aie pas honte, tu as du témoignage à rendre. Et il se prend lui-même comme un exemple pour lui dire, voilà, je suis en prison, mais la parole de Dieu n'est pas liée.
Oh, gloire à Dieu.
Et je suis dans ces chaînes-là, c'est pour les élus, pour que beaucoup soient sauvés. Effectivement, par ces épîtres-là, nous avons maintenant toute la révélation de Dieu, n'est-ce pas vrai? Et ce qu'il a écrit en prison libère des multitudes de chrétiens et d'hommes et de femmes aujourd'hui, n'est-ce pas vrai? Mais c'est en prison qu'il a dû écrire cela. C'est un paradoxe. Alors le contexte est là quand il utilise ce mot « souffre avec moi » et que le mot grec qui veut dire un peu « son kakos pathos », ça va tout ensemble. Il voulait lui dire, comme « son », c'est le mot qui correspond au partenaire, et c'est comme pour, il voulait lui dire « Timothée, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il y a d'autres comme toi. Il y a des partenaires. Ne pense pas que tu es le seul et que tu vas être seul à affronter tout cela. Il y en a d'autres. Il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal.
Merci.
Il voulait ainsi l'encourager. Ne te décourage pas. Ne pense pas que c'est fini parce que je suis en prison et que tout va s'arrêter. Ne pense surtout pas ça. Il y a l'idée de partenaire. Et quand Paul voyait l'armée romaine, si une armée va au combat en rang dispersé, sans aucune entente, vous croyez qu'ils vont gagner?
C'est vrai.
Ils vont mieux rester là où ils sont. Ils ont perdu avant de commencer.
Oh, oui.
Ils sont, tous ces soldats sont partenaires les uns des autres. Ils se soutiennent les uns les autres.
Amen, amen.
Et c'est comme si Paul voulait lui dire, tu n'es pas seul, Timothée. Il y a d'autres chrétiens. Certains ont déserté, c'est vrai. Il y a des déserteurs. Il y a des craintifs. Mais ne sois pas de ce nombre-là. Et il lui dit pas, oh, c'est rien du tout. Ça va passer, non. Dans le deuxième mot qui correspond à cela, il y a la pensée de dureté, de vie difficile. La situation va s'empirer. Voyez-vous, il était là, il lui disait exactement les choses. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il ne lui cache jamais la vérité.
C'est vrai.
Le Saint-Esprit nous dit la vérité. Parce que c'est quand on sait où nous en sommes que nous pouvons prendre les dispositions qu'il faut pour agir en conséquence.
Amen, amen.
Et Paul lui dit, eh bien, c'est un appel à rester coûte que coûte fidèle. C'est la première règle du soldat. Un appel à rester
beaucoup de fidèles. Le combat sera grand, mais la victoire sera grande aussi.
Amen, amen.
Tout ne s'arrête pas au combat. Après le combat, il y aura la victoire. Et malheureusement, il y en a qui tombent au combat. Craintifs, lâches, déserteurs. C'est ce qui se passait à ce moment-là. Et Paul voulait fortifier la foi de son disciple. Parce que c'est sa dernière lettre, comme je vous l'ai dit. La deuxième épître à Timothée, c'est la dernière lettre. Et nous voyons combien Paul parle avec affection de Timothée. Mon fils bien-aimé. Toi donc, mon fils. Voyez là, c'est maintenant le cœur qui parle et qui veut exhorter son disciple craintif. Il veut lui donner du courage, comme pour dire « Tu n'es pas seul, le combat est dur, il ne lui cache rien ». Mais la troisième partie du mot grec, c'est « pathos ». Et le mot « pathos », c'est la détermination d'aller jusqu'au bout dans quelque chose. Et il lui dit maintenant « Tu n'es pas seul, c'est difficile, mais Timothée, tu n'as pas le choix, tu dois aller jusqu'au bout. Arme-toi, et parce que tu voudras rester fidèle, tu auras des persécutions. » Écoutez-moi bien, c'est parce qu'il restera fidèle, ou parce que Paul est resté fidèle, qu'il a eu des persécutions. Celui qui n'est pas fidèle, celui qui ne mène pas le combat, souvent ceux-là n'ont pas beaucoup de combats.
Mm-hmm. Oui.
Ceux-là, ils vivent une vie bien tranquille.
Voilà.
Et c'est un très mauvais signe.
Quand on n'en a pas.
Ça veut dire qu'on ne dérange pas le diable.
Ah, oui.
Ça veut dire que...
C'est vrai.
On ne fait pas grand-chose qui dérange le camp de l'ennemi.
C'est ça, oui.
Mais Paul lui dit, souffre avec moi. Dans cette expression-là, il y a... Tu n'es pas seul, il y a le mot de partenariat. Si tu veux aller de l'avant, il faut que... Tu restes bien avec les autres et crois que d'autres sont... Dieu t'en enverra. Il y a donc la pensée d'unité, d'équipe. Et au milieu de nous, nous formons une équipe.
Tout à fait.
Et nous devons veiller à l'unité dans cette équipe. Parce que ce que l'ennemi voudra faire, c'est de diviser.
Oui, absolument.
Et en divisant, il règne.
Ça.
Alors il nous faudra faire attention.
Oui, c'est vrai.
Plus qu'attention. Et il lui dit, les partenaires sont là.
Mm-hmm.
Et cet esprit de partenaire, de collaboration, de coopération. Dans une armée, il y a un esprit d'équipe, n'est-ce pas vrai?
Amen.
C'est important.
Oui.
Sans cela, il n'y a rien qui peut se faire.
C'est vrai.
Et Paul était impressionné par cette armée romaine, parfaitement unie, qui marche vraiment dans une unité, une harmonie. Chacun connaissant son poste. À l'armée, chacun connaît son poste. C'est d'accord avec moi. Si tu demandes à un soldat, qu'est-ce que tu fais, toi, qui est dans le... Oh, je ne suis pas encore. Vous croyez qu'il est prêt à combattre? Il vaut mieux qu'il reste à la maison tout de suite, celui-là. Chacun connaissait son poste. Connaissez-vous votre poste? Avez-vous pris des décisions pour vous engager? Souffre avec moi. Donc, un appel à rester fidèle coûte que coûte. Et dans la dernière partie du mot pathos, Paul voulait lui dire, eh bien, il y aura, tu n'es pas seul, avec les partenaires, et dans le combat le plus grand, tu dois malgré tout aller jusqu'au bout. Amen. Tu dois aller jusqu'au bout. Rien ne doit t'arrêter. Et même s'il fallait mourir, il faut aller jusque-là. Sois fidèle jusqu'à là.
Mort,
et je te donnerai la couronne de la vie.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Alléluia.
Amen, amen. Merci Seigneur.
Première règle dans l'expression « souffre avec moi ». Alors la deuxième règle, toujours dans les versets 2 et 3 de 2 Timothée 2, qu'est-ce qu'on a souligné? Bon, « souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Et dans ce simple mot « bon », nous allons trouver une autre règle très importante pour un soldat de Jésus-Christ. Et le mot « bon », comme je vous l'ai dit, ce mot « bon »,« kalos », c'est un appel, on peut noter maintenant, comme on a mis un appel à rester fidèle coûte que coûte, deuxième règle, un appel à manifester un esprit noble. Un esprit noble. Parce que le mot « bon » peut se traduire « beau »,« fidèle ». De première catégorie, vrai, il y a tout ça dans le mot « bon ». Et le mot « noble »,
Simplement en regardant dans le dictionnaire, qu'est-ce qu'on voit? Le mot noble, dans le mot noble, il y a la pensée d'excellence. Quand Paul dit « sois un bon soldat », donc tu dois être un soldat d'excellence, qui est au-dessus du commun, en pensant aux autres qui désertent, qui abandonnent. Tu dois être au-dessus. Dans le mot « bon », il y a l'idée d'exemple. Tu dois être un exemple, au-dessus du commun, dont les qualités morales sont grandes. Voici ce qu'il y a dans le mot « bon ». Excellent, au-dessus du commun, dont les qualités morales sont grandes, qui est hautement apprécié sur le plan moral. Vous vous rendez compte? Quand Paul dit ça, sois un bon soldat, il y a tout ça dedans. Combien s'arrête là-dessus? Bon, c'est bien, c'est tout. Mais il y a tout ça là-derrière. Et tout ça dans le contexte de la médiocrité, de la désertion, de la persécution, de la calomnie, de la division, il y a tout ça qui est là. Et Paul lui dit, souffre avec moi comme un bon kalos. C'est un terme très fort, plus de 100 fois dans le Nouveau Testament. Attractif, beau, je vais vous donner encore d'autres choses là-dessus, pour finir ici, ce que j'ai vu dans le dictionnaire, qui commande le respect, l'admiration par sa distinction. Voilà ce que Dieu, par la bouche de Paul, nous dit que, au travers de tous ces combats, les autres doivent nous admirer, admirer notre foi, admirer notre ténacité, notre fermeté, notre fidélité. Et c'est ainsi que nous glorifierons le
Seigneur.
Seigneur.
Amen.
Un appel à manifester un esprit noble. Et j'ai noté quelques pensées ici sur le mot noble.
Dans le mot
ah, voilà,
noble,
c'est là. Ah, oui, il y a le mot noble.
Voilà.
Et alors ici, un bon soldat, donc en grec kalos, plus de 100 fois dans le Nouveau Testament. À l'origine, ce mot était utilisé pour la beauté des formes. Une femme qui était belle, on l'appelait kalos, hein, c'était la beauté extérieure. Il y a cette pensée-là. Mais il n'y a pas que ça. Deuxièmement, il y a aussi la pensée de grâce, d'attirance, d'aimable. Dans le mot kalos, c'était un terme extrêmement riche. Quand on parlait de quelqu'un qu'il était kalos, c'était quelqu'un. Pas seulement dans le domaine physique, parce que tout le monde n'a pas cette chance d'avoir un corps magnifique. Mais tout le monde peut avoir cette qualité morale, cette beauté morale.
Uh-huh. Amen. Amen.
Troisièmement, il y a la pensée d'admiration. Quelqu'un qui est kalos, c'est quelqu'un que l'on admire. Quatrièmement, il y a l'idée d'utilité. Il n'y a pas seulement l'idée de décoration, c'est-à-dire de beauté, mais aussi d'utilité aux hommes. Quelqu'un qui est kalos, c'est quelqu'un qui sera utile aux autres. Et c'est ce que Paul voulait dire à Timothée, sois un bon, si tu es excellent, si tes qualités morales sont au-dessus des autres, tu seras forcément utile à ton maître. Et il exhorte en ce sens, et nous devons tous travailler là-dessus, n'est-ce pas vrai? Quand notre témoignage est lamentable, nous sommes loin d'être des kalos. Nous sommes calés dans notre foi, mais nous ne sommes pas des kalos. On est peut-être calés, mais pas kalos. Et une cinquième pensée dans l'expression kalos, c'est l'idée de faire une chose au bon moment, au moment opportun. Quand quelqu'un fait quelque chose au bon moment, on dit que kalos, au bon moment, la personne fait quelque chose. Et quand est-ce qu'il faut faire ces choses? C'est quand Dieu nous parle. C'est le bon moment d'agir.
Oui.
Si nous voulons que Dieu agisse, nous devons obéir. Oui. C'est quand nous obéissons que Dieu agit.
Uh-huh. C'est comme ça.
Pas d'obéissance, pas d'action divine.
Eh oui.
Pas d'obéissance humaine, pas d'action divine.
Uh-huh.
Et nous, bien souvent, nous mettons la charrue devant les bœufs.
Oui.
Nous disons, Seigneur, agis et j'obéirai. C'est exactement le contraire.
Oui.
Exactement le contraire. Oui. Sois un bon soldat, sois un kalos. Au bon moment, quand on dit une bonne parole, au bon moment, c'est comme une pomme sur des Ciselée, comment
c'est? Oui, c'est de l'argent.
Des pommes d'argent sur une ciselure d'argent, quelque chose comme ça.
Ou quelque chose comme ça, oui.
Donc qui donne de la valeur. Une parole dite à propos, bon moment, c'est une parole qui vaut de l'or. Qui vaut de l'or. Un mot peut toucher quelqu'un. Au bon moment.
C'est ça. C'est disponible.
Au bon moment, c'est une parole talos. N'est-ce pas merveilleux? Et Dieu veut nous utiliser.
C'est ça.
Un mot dit au bon moment peut produire de grandes choses dans la vie de quelqu'un.
C'est vrai.
C'est pourquoi nous devons être de bons soldats kalos. Une sixième pensée, il y a l'idée d'une chose belle et honorable dans le sens moral. Une chose belle et honorable. Donc on voit dans le caractère de la personne, la beauté de Jésus. On voit la personne de Jésus. Les premiers apôtres, n'est-il pas écrit qu'ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus? Pas avec lui seulement physiquement, parce qu'ils ont voyagé avec lui. Il y avait peut-être ça, certainement, mais il y avait plus que ça. Le caractère de Jésus s'était imprimé dans les apôtres, parce qu'ils les voyaient réagir comme Jésus. Et ils avaient les mêmes oppositions que Jésus, les mêmes calomnies, de telle sorte que Paul a dû dire « Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes
». Voilà.
Et de Jésus, Jésus en est le parfait modèle là, qu'il est descendu du ciel pour faire la volonté de son Père. Et personne n'a pu l'arrêter sur ce chemin-là. Il a durci son front, déterminé à aller jusqu'au bout. Et c'est ainsi que le Jésus a accompli la volonté de son Père. Et c'est ainsi que nous devons nous agir. Et on en est où, à combien? Septième pensée, là je vois.
C'est encore sur Kalos.
C'est toujours sur Kalos. Kalos, je vais vous donner ça, c'est impressionnant. Et il y a l'idée d'être impressionné au contact de cette personne. Une personne Kalos vous impressionne. C'est pas vous qui essayez d'impressionner les autres. C'est les autres qui sont impressionnés à votre contact. C'est autre chose.
Ah oui.
En général, quand on cherche à impressionner les autres, c'est parce qu'on n'a pas grand-chose. On n'est surtout pas kalos. On est calé, oui, quelque part. Mais on n'est pas kalos. Dans le kalos, c'est l'autre qui est impressionné par ta personne. Combien nous avons besoin de grandir, n'est-ce pas vrai? Moi, le premier. Combien nous en avons besoin? Combien? Mais il nous faut grandir, il nous faut devenir des kalos. Il ne faut pas se justifier. Oh, dis-moi, c'est mon caractère. Mon grand-père était comme ça.
Oui, c'est ça.
Ma grand-mère était comme ça. C'est dans la famille. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais tu es dans une nouvelle famille.
Amen.
2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Amen, amen.
Tu es dans une nouvelle famille. Et dans cette nouvelle famille, tu dois dévoiler le caractère de ton Père céleste et de ton Sauveur. Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Apprenez de moi, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous devons grandir, mes amis. Ça, c'est les fruits de l'Esprit. Il ne faut pas qu'on reste tout le temps les mêmes.
C'est
tragique quand, après des années, on est toujours les mêmes. Et ils cherchent toujours à impressionner les autres. Hein? Alors que les autres ne sont pas du tout impressionnés par notre personne. Au contraire, ils sont repoussés, rebutés. Il n'y a rien qui impressionne. Et il n'y a pas besoin de le savoir si nous pouvons impressionner les autres. Moïse,
voilà.
Il était avec le Seigneur. Est-ce qu'il savait que son visage rayonnait? Il ne le savait même pas. Et c'est bien ainsi, mes amis. C'est quand on réalise que c'est les autres qui réalisent quelque chose. Mais nous, le Seigneur, nous garde dans l'humilité, afin que l'orgueil ne pénètre pas dans notre cœur pour tout détruire et tout gâter. Et une huitième pensée, ce mot est utilisé pour décrire les bonnes œuvres. Matthieu 5, 16, les bonnes œuvres d'un chrétien vues par les hommes, afin qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Vous vous souvenez de ce passage? On doit faire des bonnes œuvres afin que notre Père céleste, afin que les gens du monde glorifient Dieu, votre Père qui est dans les cieux. Et les bonnes œuvres dont il est question ici,
c'est Kalos. On ne fait pas des œuvres, des bonnes œuvres pour être sauvés. Mais une fois sauvés, nous devons faire des bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres sont admirables, attrayantes, excellentes. À cause de l'Esprit de Dieu en nous, à cause de la parole de Dieu, à cause de la communion avec Jésus. Tout cela concourt à notre transformation. Nous tous qui le visage découvert, nous contemplons le Seigneur et sommes transformés de gloire en gloire à son image. Toi, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat.
Bon, j'en ai assez dit là, Kalos. Maintenant, on en est où? Soldat. Alors, quelle est la pensée qui va avec? Troisième règle, le soldat. Un appel à devenir soldat. C'est un appel?
Amen.
On peut dire beaucoup de choses, Dorothée en a parlé déjà, mais je veux dire juste deux, trois choses. Un appel à devenir soldat. On peut être un adorateur, c'est merveilleux. Tout commence par là.
Oui.
On peut être un témoin, c'est merveilleux. On peut être un disciple, c'est merveilleux. Mais êtes-vous un soldat? C'est autre chose encore,
ah,
soldat.
Ah oui, ça c'est encore une autre étape.
Ah oui. Mm-hmm. Et c'est un appel à devenir des soldats. Mm-hmm. Dans le soldat, il y a la discipline, oui, il y a la persévérance. Il y a l'obéissance. Et le mot clé du soldat, c'est quoi? À l'armée, c'est l'obéissance. Mmh. Soulignez bien cela 10 fois, si vous voulez, sur notre... 10 lignes, si tu voulais, dessous. Mmh. À l'armée, qu'est-ce qu'on dit? L'obéissance est la force principale des armées. L'obéissance. C'est la force principale. Les soldats, s'ils n'obéissent pas, qu'est-ce que c'est que ces soldats? C'est une armée fantoche.
Oui.
C'est fait pour faire des défilés, mais pas pour aller à l'armée. Beaucoup de chrétiens sont faits pour des défilés.
Ah,
ils savent bien défiler. Pour parader ce qu'ils sont. Mais au combat, il n'y a plus rien du tout. Dès qu'ils entendent un petit obus qui éclate par-ci, par-là, ils commencent à s'enfuir.
Uh-huh.
La moindre difficulté les arrête.
C'est ça.
Pourquoi? Simplement parce qu'ils ne sont pas prêts à mourir pour le Seigneur.
Ben oui.
Vous savez, quand vous êtes prêt à mourir pour le Seigneur, il n'y a plus rien qui vous arrête.
Amen. Amen.
Il y a bien déjà des années,
amen,
que j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, je veux te suivre pour la vie et ou pour la mort.
Mm. »
Chaque fois que nous partons en mission, dans mon cœur, il y a cette pensée.
Oh, oui.
S'il faut mourir là-bas, pas de problème.
Et dans le mien aussi.
Voilà.
Amen.
Pas de problème. Cette décision a déjà été prise de mourir, d'accepter de mourir pour le Seigneur. La force d'un soldat, c'est l'obéissance. L'obéissance à qui? Au Seigneur, bien sûr. Au Seigneur Jésus. C'est là la force du soldat. Un soldat qui n'a pas d'obéissance, c'est un déserteur. C'est un rebelle, on le met en prison, c'est tout. Et voilà beaucoup de pourquoi. Beaucoup de chrétiens sont tombés en prison. Mais qu'ils ont fabriqué eux-mêmes.
Eh oui.
Ils se sont emprisonnés eux-mêmes.
C'est ça.
Parce qu'il n'y a pas d'obéissance. Ou ils obéissent quand ça les arrange. Et quand ça les dérange, il n'y a plus rien du tout. Ah, voilà où on en est.
C'est vrai.
Souffre avec moi comme un
bon
soldat. C'est un appel à devenir un soldat.
Mm-hmm. Amen.
À devenir un soldat prêt à recevoir les dards enflammés du malin, mm-hmm, entendre des explosifs à gauche, à droite, à les pièges qui sont devant toi. Le soldat est préparé à ça. Il est préparé dans les situations les plus difficiles, les plus périlleuses. Et chaque fois que Paul avait des difficultés avec telle ou telle église, il envoyait Timothée.
Mm-hmm.
C'est pourquoi Timothée était prêt, attention. Hein. Il ne faut pas penser que Timothée, là, d'un seul coup, Paul lui donne toutes ses responsabilités. Immense, remplacer Paul, vous vous rendez compte?
Mm-hmm.
Mais vous vous rendez compte, remplacer Paul. Mm-hmm. Et c'était un jeune. Si vous lisez les épîtres, combien de fois, quand il y avait un problème, dans telle ou telle église, Paul envoyait Timothée pour aller régler les problèmes. Il a donc déjà appris à aller là où l'ennemi faisait des dégâts, faisait du mal. Et le Seigneur l'avait formé à régler les problèmes au sein du combat. Il avait donc appris à affronter l'ennemi. Un soldat, c'est quelqu'un qui affronte l'ennemi. On pourrait parler bien sûr de l'armure du chrétien dans Éphésiens 6. Mais juste un petit détail. Vous avez remarqué une chose? Il y a l'armure, mais le dos n'est pas protégé. Il n'y a rien qui protège le dos.
C'est qui tourne le dos?
On est tous, tout est protégé devant, mais pas derrière.
Ah non.
Le déserteur, il ne sera pas protégé.
Ah ben non.
Tant que nous obéissons,
nous sommes protégés.
Dans le combat le plus dur, le plus périlleux, le Seigneur te gardera. Tu reprendras le bouclier de la foi, contre lequel viendra s'éteindre tous les dards enflammés du malin.
Amen.
Un soldat, c'est ça.
Merci, Seigneur.
Comme je dis de temps en temps, ça fait un moment que je ne l'ai pas dit, mais c'est peut-être le moment de le dire. Il y a beaucoup de chrétiens, alléluia, mais pas assez de chrétiens, amen. Il faut être un chrétien, alléluia. Moi, j'en suis un. Et comme on a bien loué le Seigneur ce matin, cela prouve que nous sommes des chrétiens, alléluia. Ça commence par là. Mais pas seulement un chrétien, alléluia. Des chrétiens, amen. Alléluia, c'est par rapport à notre Seigneur, le louer, le bénir. Il est merveilleux. Mais aussi être un chrétien, amen. Et amen veut dire, ainsi soit-il. En vérité, qu'il en soit ainsi. Donc vous êtes prêts à aller sur le chemin que le Seigneur place devant vous, quel qu'il soit. Vous êtes prêts à aller, amen Seigneur, où tu veux. Comme tu veux, quand tu veux.
Amen.
Comme tu veux. Êtes-vous un chrétien, alléluia, c'est bien, il faut l'être. Surtout, mais il faut aussi être un chrétien, amen. Si vous n'êtes un chrétien qu'alléluia, vous marchez sur une jambe. Et vous n'irez pas loin qu'avec une jambe. On voit des chrétiens qui sautillent comme ça.
Sur une jambe.
Sur une jambe. Mais l'autre jambe, pourquoi elle ne marche pas? Ah oui, parce que ce n'est pas des chrétiens. Si ce n'est pas des chrétiens, amen.
Ah oui.
Si tu n'es pas un chrétien, amen, tu vas sautiller. Et en sautillant, ta jambe va gonfler. Et tu n'iras pas loin. Et bientôt, tu seras malade. Et tu tomberas par terre. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen.
Ah,
amen.
Amen.
C'est le moment de dire amen.
Amen.
Amen, Seigneur. Comme tu veux, quand tu veux, où tu veux.
Amen. Alléluia.
Il ne faut pas que la petite difficulté nous arrête. Il vaut mieux rester là où nous sommes. Si on n'est pas prêt à aller jusqu'au bout avec le Seigneur. On en est où?
Quatrième.
Quatrième, le soldat. Ah oui, voilà. Alors maintenant, quatrième règle dans le verset, soldat de qui? De Jésus-Christ. Alors, la pensée, c'est un appel à suivre l'exemple de Jésus. Un appel à suivre l'exemple de Jésus. C'est cela, être un soldat. Il faut qu'il ait un exemple. Et quand on l'a lu tout à l'heure, chapitre 2, verset 8, « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts. » C'est important ici. Jésus n'est pas resté suspendu sur la croix. La croix n'était pas ce qui était terminé dans la vie de Jésus. C'était une étape importante, mais tout n'a pas fini là. Si ça avait fini à la croix, c'était un échec. Ça aurait été un échec total. C'est comme si Paul disait à Timothée, « Regarde Jésus, lui aussi, il a souffert. Il a été calomnié, rejeté. Quand on observe la croix et tout ce qui s'est passé, seul, abandonné, calomnié, fouetté, on se demande. C'est l'exemple même de l'échec. Personne n'est là pour lui venir en aide, désespérément seul. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme si Paul disait à Timothée, tu es peut-être dans cette période-là, où tout semble un peu, tu es seul, et même avec des autres chrétiens, vous n'êtes pas nombreux, vous êtes quand même seul, même, on peut être seul en étant 100 ou 1000, devant la foule, la multitude, devant 100 000, on peut être seul aussi. Quand il y a des millions de personnes, qu'est-ce que c'est? C'est un petit troupeau de chèvres. Mais Paul voulait dire à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, partout où tu es passé, il est passé. Partout où Jésus est passé, moi aussi je suis passé, Paul. Je suis là aussi, mais il est ressuscité des morts. Ça veut dire que la réponse finale à tout cela, ce n'est pas la mort, mais c'est la gloire.
Amen.
La mort nous conduit à la vie, et les souffrances nous conduisent à la gloire. Ne l'oubliez pas cela. La mort conduit à la vie. La vie agit en nous, la mort agit en nous, dit l'apôtre Paul, et la vie agit chez vous, dans l'épître aux Corinthiens. Et toujours dans les Écritures, quand il est parlé de souffrance, la gloire, c'est jumelé avec la gloire. Il est parlé de souffrance et la gloire suit après. J'ai noté cette référence belle, Hébreux 12, 1 à 3, juste lire cela, c'est l'exemple de Jésus justement. Hébreux 12, 1 à 3, qu'est-ce qu'il est dit? Nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance à la terre qui est devant nous et qui est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, qu'est-ce qu'il a fait? A souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie ou corrige celui qu'il aime. La correction n'est pas un châtiment du Seigneur, c'est pour nous corriger, est un témoignage d'amour du Seigneur pour nous corriger, nous former, nous qualifier, nous équiper. Sans ces souffrances-là, il n'y a pas d'équipement pour le service. Où avez-vous un chrétien qui n'a pas souffert et qui est utilisé puissamment par le Seigneur? Cela n'existe pas.
Non.
Sauf dans les musées. Il peut être en cire dans les musées, là, seulement dans les musées. Mais Paul voulait dire à Timothée, prends un appel à suivre l'exemple de Jésus. Ne t'arrête pas à sa mort, à ses souffrances, à cette apparente faiblesse. Il était dans une grande faiblesse lorsqu'il a été crucifié. Mais il est ressuscité des morts.
Amen. Alléluia.
Dieu n'avait pas dit son dernier mot pour son fils. Amen. Le ressuscité des morts. La mort conduit à la vie et la souffrance conduit à la gloire.
Amen.
Cinquième règle. Dans le verset, on a lu, comme un bon soldat de Jésus-Christ, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse. Alors, soulignez s'embarrasse. Et dans ce verbe-là, il y a un appel, une règle. Un appel à avoir des priorités. Voilà, une pensée importante. Il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup pensent qu'avec ce verset-là, si on n'est pas entièrement au service de Dieu, complètement, eh bien, on ne peut pas servir le Seigneur. Ce n'est pas du tout ce que ce texte veut dire. J'ai lu dans certains commentaires que j'avais, il y en a un qui disait, voilà, pour bien servir le Seigneur, il faut être entièrement à son service. Ce n'est pas ça du tout que ça veut dire. Il ne s'embarrasse pas des choses de la vie. C'est comme si Paul voulait dire à Timothée, eh bien, on est au service du Seigneur et il faut tout faire pour que rien ne vienne vous embarrasser, vous entraver dans ce service. Il faut donc des priorités.
Vous empêcher.
Et vous empêcher d'accomplir pleinement la volonté de Dieu dans votre vie. Mais il peut y avoir l'amour de l'argent. Il peut y avoir l'amour du plaisir. Il peut y avoir
le confort,
le matérialisme, et l'amour de la gloire. L'amour de soi-même. Dans les derniers temps, les hommes seront amoureux d'eux-mêmes, égoïstes. Et tout ça nous empêchera d'être un véritable soldat, un soldat qui se traite à la dure un petit peu. Amen.
Oui.
Beaucoup sont durs avec les autres, mais pas avec eux-mêmes. Il y a une petite contradiction là. Ils sont très durs avec les autres, mais quant à eux, il ne faut pas trop les chatouiller. D'une susceptibilité. Alors vraiment, il faut prendre des pincettes. Et même quand vous prenez des pincettes, ça ne va encore pas. Ce n'est pas avec ces pincettes-là qu'il me faut me reprendre. Ça ne marche pas. Une susceptibilité, l'amour du soi. Paul voulait dire, attention, si nous voulons être de vrais soldats, il faut des priorités.
C'est vrai.
Il faut dire au Seigneur, Seigneur, rien ne doit m'arrêter. Aucun obstacle, aucun piège, aucune tentation, aucune chose ne m'arrêtera pour te servir.
Ah.
Je ne veux pas d'entrave. Je ne veux pas courir avec des... Je ne veux pas aller au front avec des boulets à mes pieds. Je ne veux rien. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça, c'est la priorité.
Et voilà.
Dans tout ce que nous faisons, c'est d'abord le royaume de Dieu.
Amen, amen.
La priorité. Seigneur, je veux d'abord te plaire. Je veux d'abord faire ta volonté. Si nous avons cet objectif-là, alors tout le reste prendra sa place. Tout le reste prendra sa place.
C'est vrai.
Mais les choses importantes doivent être en tête. Ne s'embarrasse pas. Nous devons bien veiller à ce que certaines choses n'amoindrissent pas en nous l'amour pour le Seigneur, l'amour pour sa parole, l'amour pour la prière, l'amour pour le témoignage. Toutes ces choses qui vous empêchent de faire ces choses, c'est un embarras, ce sont des chaînes. Et c'est ce que Paul veut dire ici, attention, attention, veillez à cela.
ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Il faut des priorités. Premièrement, le royaume de Dieu est sa justice. Et toutes ces choses nous seront données par Dieu. Vous vous rendez compte? Toutes ces choses, les choses matérielles, tout, tout, le Seigneur le fera. L'important, c'est lui. Et que rien ne doit nous empêcher d'être de fidèles chrétiens, soldats, fidèles témoins, fidèles disciples. Rien ne doit amoindrir notre amour pour le Seigneur, pour les âmes et pour sa parole.
Amen.
Sixième règle, s'il veut plaire. Alors on a souligné le verbe plaire. Et là, la pensée, c'est un appel à plaire au Seigneur et non aux
hommes.
S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alors, attends, il est question de plaire ici. À qui le soldat doit-il plaire? Il doit plaire à son capitaine.
Eh oui.
Capitaine, hein? Il n'est pas question d'un sous-lieutenant ici, ou d'un petit soldat là. Et puis quand le capitaine a dit une chose en ordre, et que le capitaine lui dit, « Eh là, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as pas bu? Ah oui, mais il y a le caporal ici qui m'a dit le contraire. Quelle humiliation pour le capitaine. Et qu'est-ce que c'est que ça? Pour qui tu me prends? Tu me prends pour un petit rigolo? C'est le caporal maintenant qui te dirige. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? À qui tu cherches à plaire? Va, rentre vite à la maison. Rendre vite à la maison? Tu ne peux pas me servir? C'est impossible! À qui voulons-nous plaire? C'est une pensée extrêmement importante. Une règle pour un soldat. À qui est-ce que je cherche à plaire? Dans le fond de mon cœur. C'est pas lisible ici, mais dans le cœur. Est-ce que vous avez pris cette décision? Galates 1.10, un passage très important de Paul. Galates 1.10, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à, qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? À plaire aux hommes. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Serviteur de Christ. Si vous voulez encore plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Voyez-vous, on ne peut pas plaire aux hommes et servir Christ. Ça ne va pas ensemble. Mm-hmm. Vous ne pouvez pas plaire aux hommes et plaire au Seigneur.
Impossible.
Ça ne marche pas. C'est d'abord plaire au Seigneur. Et quand on plaît au Seigneur, forcément, on va déplaire aux hommes. Mm-hmm. Forcément!
Ah, oui.
Mais beaucoup de chrétiens, ils tombent des nues. Oh, pourtant, je sers le Seigneur. Et il m'a dit une mauvaise parole. Ah bon? Les obus, les éclats, les éclats de tout ça, les dents enflammées, ça te fait peur? Mais tu n'es pas un soldat! Quand tu es paniqué par la moindre de ces choses-là, qui a dit que tu n'aurais pas des dents enflammées? Et septièmement, on va terminer. À celui qui l'a enrôlé. Vous avez souligné enrôlé? Et ici, il y a une pensée importante. C'est un appel, hein, chaque fois il y a la pensée, je vous donne toujours la pensée, un appel à le suivre volontairement. Alors, il y a une pensée très importante. À celui qui l'a enrôlé. C'est un appel à le suivre volontairement. C'est tout ce qu'on fait volontairement pour le Seigneur qui a de la valeur aux yeux de Dieu, n'est-ce pas vrai? Tout ce qui est une contrainte, une obligation, ça n'a aucune valeur.
C'est vrai.
Aucune valeur. C'est ce qu'on fait volontairement.
Amen.
Et de bon cœur.
Voilà.
Faites tout comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Pourquoi je vous dis cela?
Ouais.
Parce que dans l'expression s'enrôler, il y a trois étapes. C'est un seul mot grec aussi. Stratologesanti. Je suis loin de la prononciation grecque. Hein. Bon, il y a trois pensées dans ce mot enrôler. Premièrement, c'est Dieu qui nous invite et cherche à nous persuader de nous enrôler et de nous engager. C'est Dieu qui cherche à nous persuader. Il ne force personne, vous voyez?
Ah non.
Deuxièmement, en réponse à cet appel, nous nous engageons volontairement. Ça, c'est le deuxième, c'est la réponse. Et troisièmement, vous savez, à l'armée, on s'engage pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais là, ce n'est pas la même chose. Ah, Dieu alors nous engage. À ce moment-là, il nous engage. Lui. Ouais. Il nous enrôle. Il nous engage. C'est-à-dire, nous considère comme soldats dans son armée. Et cet engagement n'est pas pour 2 ou 3 ans, mais c'est pour toute la vie. Ce n'est pas comme dans l'armée ici-bas. Pendant 2-3 ans, après, c'est terminé. Non. Un soldat, il est soldat pour la vie. Pour la vie.
Mm-hmm.
Et pour l'éternité. Amen. Combien
Amen.
De déserteurs parmi les soldats? Ils ont bien commencé. Mais il n'y a plus rien maintenant. Mm-hmm. Trop de bruit. Trop de dards enflammés. Trop de combats. Trop de buts. Oh là là. Et comment? Non. Trop d'angoisse. Paul l'a bien dit. C'est un combat dur. Difficile.
mais victorieux.
Alléluia. Amen, amen.
Comme Jésus a vaincu la mort et il est ressuscité, nous aussi, nous sortirons vainqueurs de toutes nos difficultés.
Et c'est pourquoi il est dit ici, on l'a lu, n'est-ce pas, de Timothée, et je termine par cela.
Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ et la gloire est avec la gloire éternelle. Oui, c'est merveilleux. Et ensuite, c'est là cette parole extraordinaire. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui, aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Attention. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, voilà, j'avais oublié ce passage, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Après la croix, c'est le trône. Alléluia. Mais il n'y a pas de trône sans croix, attention. Il n'y a pas de court-circuit, là. On peut pas, ça ne marche pas. Pour aller sur le trône, il faut passer par la croix. Après la mort, c'est la vie. Après la souffrance, c'est la gloire. Cette règle du soldat de Jésus-Christ, c'est ainsi que chaque chrétien doit servir le Seigneur. Et si nous mettons en pratique ces paroles-là, mes amis, Dieu nous utilisera dans son armée.
Amen.
Et fera de nous des hommes qui en entraînent d'autres, des kalos, admirables, excellents, où les autres sont impressionnés. Il y a une beauté morale. Que le Seigneur nous aide à grandir dans ce domaine-là, n'est-ce pas vrai? Quand j'y pense moi-même, j'ai honte parfois. Seigneur, aide-moi à te ressembler toujours plus et à grandir dans tes voies.
Amen.
Ayez en vous les sentiments qui était en Jésus-Christ. Que ce soit là notre prière et que nous ne restions jamais les mêmes, mes amis.
C'est vrai.
Et forçons-nous, avec la grâce de Dieu, d'être transformés à son image par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu et par notre communion avec le Seigneur et par notre témoignage. Parce que quand on témoigne aussi, on est transformé.
C'est vrai.
Parce que le Saint-Esprit est donné pour rendre témoignage. Ah. Et quand vous rendez témoignage, l'Esprit de Dieu vient sur vous.
Amen.
Vous êtes comme vous-même fortifié, encouragé.
Bien sûr.
Vous, en encourageant les autres, vous êtes encouragé vous-même. Oui. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. L'âme bienfaisante sera elle-même rassasiée.
Amen, amen.
C'est le cœur généreux.
Oui, qui donne.
Qui donne.
Et qui
a toujours en abondance pour donner encore.
Encore, toujours.
Il ne sera jamais à sec.
Non.
Que Dieu soit béni.
Mm-hmm. Amen, Seigneur.
Amen.
Amen, Seigneur.
Seigneur.
Alléluia.
Bénis ta parole.
Oui, Seigneur. Amen.
Je veux que tu agisses aussi en moi.
Oui, Seigneur. Amen.
Et je veux être un bon soldat de Jésus-Christ.
Alléluia.
Je suis loin de l'aide, Seigneur.
Oh oui, Seigneur. Dans notre faiblesse, viens nous en aide.
Mais je me confie en toi.
Alléluia, Jésus.
Je veux toujours plus te ressembler.
Amen, amen, Seigneur.
Et te glorifier. Honorer être ce soldat kalos, excellent, dont la vie morale est au-dessus du commun du peuple. Aide-nous, Seigneur, à être des soldats de première catégorie, vrais, authentiques, exemplaires. Merci, Seigneur. Purifie-nous, pardonne-nous pour tout ce qui t'a déshonoré. De mille à une façon.
Oui, au milieu.
Nous voulons nous reconsacrer à toi.
Amen.
Pour recommencer une vie nouvelle avec toi.
Jésus.
En acceptant cet appel de soldat.
Ah oui, Seigneur.
Mais de Jésus-Christ.
Jésus, aide-nous.
Et de personne d'autre.
Mm-hmm. Amen.
De toi, Seigneur, je veux être le soldat. De toi, nous voulons l'être. Ensemble aussi. Puisqu'un soldat ne peut gagner aucune bataille tout seul. Ensemble, nous voulons combattre pour ta seule gloire. Si nous persévérons, il y a le « nous » ici, pas seulement « je persévère
ah. ».
Le « nous
mm-hmm. »,
il y a l'équipe,
oui.
Il y a l'armée, il y a ainsi une communauté. Puissions-nous persévérer et nous régnerons aussi un jour avec lui.
Alléluia.
Que le Seigneur bénisse sa parole
Alléluia.
Pour sa seule gloire et pour le bien d'un grand nom. Amen.
Je voudrais juste ajouter... Dans ce que j'ai dit au départ, qui est venu donc confirmer le message que Samuel a donné et que je ne savais pas du tout ce qu'il allait dire, je voudrais juste dire que ce que le Seigneur a souligné dans ce qu'il m'a donné, c'est que je n'ai pas dit au départ et que je veux maintenant dire, c'est l'importance, Samuel l'a dit dans un de ses points, l'importance que nous soyons nous ici, comme équipe compassion, une équipe soudée et unie, et que nous apprenions à nous supporter les uns les autres, que nous veillions particulièrement à nos susceptibilités personnelles et que nous apprenions à les mettre de côté. Si nous voulons marcher ensemble d'un même pas, nous ne sommes, aucun de nous n'est parfait, aucun de nous est sans faille, nous devons apprendre à nous pardonner, à nous supporter les uns les autres et à ne pas nous laisser arrêter ou par susceptibilité, ou à cause d'une parole, à cause d'un geste, à cause de je ne sais quoi. À ce moment-là, apprenons à mettre de côté notre susceptibilité personnelle et puis dire tout ça, je renonce à me laisser agresser par une telle chose. Moi, je veux continuer à aimer mon frère, à aimer ma sœur, et je veux être kalos. Je veux travailler à l'unité et au support mutuel du groupe que nous formons. C'est très important. Si nous sommes soldats, nous devons mettre de côté nos susceptibilités personnelles. Si nous voulons combattre, parce que ça fait partie de sa formation, parce que sinon, nous ne sommes pas aptes à combattre. Nous ne pouvons même pas être soldats. Si la moindre parole blessante ou je ne sais quoi, maladresse de l'un ou de l'autre, vient nous arrêter ou nous paralyser, comment voulons-nous aller au combat? Il faut vraiment mettre aussi, porter sa croix et renoncer à soi-même et à ses susceptibilités. C'est important. Seigneur, nous voulons apprendre cela. Nous sommes comme de petits enfants à tes pieds, Seigneur. Nous avons tous à apprendre. Et moi la première, Seigneur. Nous voulons rester forts en toi et aimer notre frère, notre sœur qui est un soldat à nos côtés, l'aimer de ton amour, avec constamment le pardon, actif, efficace, à l'œuvre. Renonçons à nous-mêmes pour aimer l'autre tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses. Merci Seigneur, tu vas tous nous aider à grandir en toi pour devenir des soldats efficace que tu peux enrôler à ton service. Sois loué, adoré, notre capitaine, c'est toi. Tous les yeux fixés sur Jésus, nous voulons avancer et continuer d'avancer. Merci parce que pendant cette année, tu vas certainement nous utiliser les uns les autres de manière différente, mais toujours en vue de glorifier ton nom et de nous aimer les uns les autres et de chercher à être soudés les uns aux autres. Seigneur, merci de nous aider aussi à nous souvenir de ceux qui sont partis quand ils sont partis. Seigneur, nous avons prié pour Jean-François et nous te remercions de l'avoir ramené vivant et sauf au milieu de nous. Nous te remercions, Seigneur, tu l'as ramené ici, c'est ta grâce. Louange et gloire à toi. Merci, tu as entendu nos prières. Nous t'en remercions, associés à beaucoup d'autres, bien sûr. Mais nous te remercions de nous avoir entendus. Et merci aussi d'entendre les prières de tes enfants quand nous allons partir en Arménie, quand nous allons partir au Canada, quand nous allons partir en Afrique. Seigneur, merci d'être là et de mettre à cœur à l'un, à l'autre, de prier selon les besoins que nous pourrons avoir sur le champ. Merci, gloire et puissance à toi. Tu es notre capitaine et nous voulons te suivre et nous laisser diriger par toi. C'est toi qui vas nous donner des ordres et nous voulons être solidaires et obéissants à ton service. Sois honoré, glorifié, béni. Et voici nos vies, Seigneur. Fais-en un sujet de gloire pour toi. Aide-nous à te ressembler toujours plus, à te servir plus efficacement, à être à l'écoute de ce que tu nous dis. Sois loué, merci d'avoir touché Annie. Merci d'avoir touché Albert. Seigneur, louange et gloire à toi. De nous avoir fait du bien, nous avoir enseigné, fortifié, exhorté, encouragé à devenir de bons soldats pour toi, pour ton armée et pour ton royaume. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Bénis les enfants aussi de Guy et Mylène. Bénis-les.
Bénis leur retour.
Garde-les sur la route.
Protège
toute cette voiture. Que l'ange de l'Éternel entoure de ceux qui le craignent. Et ils te craignent, ce sont tes enfants. Merci pour les anges que tu places autour de cette voiture et de leur donner un bon voyage de retour à Paris. Merci Seigneur. Amen Jésus.